On arrête, on annule l'émission, je vais en faire une autre. Allez, on y va tout de suite. Liberation Day. Alors c'est parti, on connaît le programme des droits de douane massifs pour le 9 avril. Attention, ils ne sont pas encore mis en place, allant de 10% au minimum pour les heureux élus comme la Grande-Bretagne, à 20% pour l'Union européenne, 54% pour la Chine, 70% pour le Vietnam ou encore plus, même, ou le Bangladesh. Alors, on va essayer de se poser, parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et on va essayer de se poser des questions claires, et on va essayer d'apporter des réponses claires, ce qui n'est pas très simple. Jean-François, c'est vous qui ouvrez le bal, vous n'avez pas de chance. Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, de Trump, évidemment.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut garder en tête, quand même, c'est les grandes masses, parce qu'on a beaucoup ce débat, et on continue de l'avoir, à savoir est-ce que Trump, en fait, est vraiment convaincu de ce qu'il fait et plonge sans doute dans le monde, dans un monde assez différent en termes de libre-échange. On passerait du libre-échange au rapport de force. Ça, c'est ce qui semble se dessiner depuis hier soir. Ou vous avez un Trump négociateur qui va revenir là-dessus et qui va finalement, qui est juste voilà. En train d'essayer de négocier. On s'éloigne quand même un peu de cette situation. Mais quand même, gardons juste les choses en tête. Quand Trump arrive, et c'est ça qui laisse penser que c'était le premier chemin, de se dire, mais en fait, Trump, en 2016, quand il arrive, il fait ça, mais il retire très vite ses droits de douane, et puis ça se passe pas si mal pour l'économie américaine, donc c'est ça qui va se passer. Mais il faut quand même garder en tête que ce qu'il fait là est radicalement différent de ce qu'il faisait en 2016. Donc Trump 2.0, c'est pas Trump 1.0, c'est pas du tout la même administration, c'est pas du tout la même dynamique. En 2016, quand il arrive, Trump, en fait, ce qu'il va faire, c'est monter les droits de douane effectifs des États-Unis de 1,5 point. On passe de 1 à 2,5. Ça, c'est les droits de douane. Il taxe 400 milliards, un peu plus de 400 milliards de dollars de biens à l'issue de son passage. Aujourd'hui, on passe donc de 2,5 à environ 20% de droits de douane effectifs. Donc, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est 10 fois plus de ce qu'il avait fait en 2016-2019. Donc l'impact, évidemment, sur les chaînes de valeur, sur les chaînes sur la consommation, puisqu'aujourd'hui, on consomme des biens qu'on importe et on produit des biens un peu partout dans le monde et on vend pas là où on produit. Tout ça, il faut peut-être soit le remettre en cause si c'est structurel, soit faire le dos rond si ça ne l'est pas.
Votre feeling, c'est que c'est une posture de négociation et que tout va se terminer à 10%, ce qui est déjà énorme, ou est-ce qu'on va vraiment avoir une guerre commerciale? On a vu dès vendredi que la Chine répliquait avec des droits de douane de 34% sur les importations américaines. Donc déjà, répondre à cette question simple, est-ce que c'est une posture de négociation? On est toujours dans the art of the deal, ou est-ce que c'est la guerre commerciale?
C'est la guerre commerciale sans une once d'hésitation. Encore une fois, ce que je disais là, c'est que déjà, même avant hier soir, on était déjà passé à 10% de droits de douane. Donc même s'il va peut-être les rebaisser, on sera toujours dans un ordre de 1 à 10 par rapport à ce qu'il a fait en 2016. Guerre commerciale sans aucun doute possible.
Christopher Dembig, Art of the Deal ou guerre commerciale?
Ça fait partie d'une stratégie qui est globale, donc effectivement guerre commerciale, mais les droits de douane sont simplement un levier parmi tant d'autres. Concrètement, par exemple, qu'est-ce que nous dit la Maison Blanche? Vous avez sur les droits de douane une vision qui est très claire de la Maison Blanche, ce sera a priori inflationniste, ils ne le nient pas. En revanche, ils se disent qu'on va avoir des rentrées budgétaires qui permettront probablement effectivement de baisser la fiscalité. On peut débattre des estimations, ils pensent vraiment que ce sera énorme ce qui permettra de baisser la fiscalité, mais c'est la vision globale. Et ça, c'est une vision du 19e siècle. Il faut rappeler que Trump a une filiation politique quand même avec cet héritage américain du 19e siècle. Et de l'autre côté, certes, c'est inflationniste, mais on va essayer d'influencer sur les prix du baril de pétrole, et donc automatiquement, ça réduirait l'inflation.
Christopher, est-ce qu'on est dans the art of the deal? Donc, des négociations, il va nous dire dans quelques semaines, bon, je plaisantais, ça sera 5% ou 10%, ou est-ce qu'on est dans la guerre commerciale? Non, déjà, répondons à cette question.
Très clairement, on est sur la guerre commerciale. Vous avez effectivement une administration Trump, vous avez des vrais théoriciens qui veulent changer complètement le commerce international. Donc, vous avez la volonté aujourd'hui qui est limpide de changer la donne. Et y compris, ce qui est assez intéressant avec ce qu'il a annoncé sur les tarifs douaniers, y compris avec des pays qui sont entre guillemets alliés, vraiment très très proches, on sait l'Inde ou encore Israël, il a mis en place ses taxes douanières. Donc, il y a une vraie volonté de changer la donne.
Sébastien Lalvé, ça vous inspire quoi pour vous? On est dans le conflit ou on est dans une sorte de négociation? On l'appelle le négociateur en chef, mais...
Bon, on est rentré dans un monde de conflit il y a plusieurs années déjà, mais quelques chiffres assez clairs. La consommation américaine, c'est 70% du PIB américain. Le moral des consommateurs est au plus bas depuis 12 ans. Donc Trump a déjà réussi un petit miracle, c'était casser le moral des ménages en 60 jours de présidence. Donc il y a un lien direct entre morale et consommation. Donc son PIB américain est en train de prendre une direction assez dangereuse. L'élément inquiétant pour nous, c'est que les exportations américaines ne représentent que 10% du PIB. Ce qui veut dire que,
d'une certaine façon... Ils ne risquent rien par des mesures de rétorsion.
Ils risquent moins que nous, parce que l'Europe, c'est 20%, par exemple. Donc de ce côté-là, les chiffres ne sont pas à notre avantage. Mais à son désavantage, la consommation est en train de piquer du nez, le moral des entreprises est en train de piquer du nez, il s'est fait déboîter lors d'une élection dans le Wisconsin. Donc il y a quand même quelques éléments qui sont en train de lui dire, et certains sénateurs républicains aussi qui sont en train de se dire, c'est un peu violent tout ça.
Alors justement, j'imagine que tout ce qu'on dit, c'est-à-dire ça va avoir un impact sur la confiance, ça va avoir un impact, on l'a entendu depuis 48 heures, ça va provoquer une récession, j'imagine qu'il le sait. Donald Trump, donc, et il sait que globalement, d'abord, on a toujours dit que c'était quelqu'un qui regardait le S&P 500 et la bourse, qui s'écroule, et qui suivait la confiance des ménages parce que c'était un indicateur de sa popularité. Donc, pourquoi il fait ça ?
Bah, c'est tout un petit peu l'espèce de gros point d'interrogation qu'on a, parce que c'est la fin du Trump-put, hein, ce qu'on disait au début, c'était que Trump, à chaque fois que le S&P baissait, finalement, il disait non, mais je blaguais, et il refaisait un tweet dans l'autre sens, quoi. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On sent bien que, je suis d'accord avec cette espèce de vision de se dire, il faut réindustrialiser l'Amérique. Si on veut être hyper sympa avec Trump et son administration, et je pense qu'on est vraiment dans une administration complètement chaotique, hein, comme dit mon chef économiste américain, si on veut être hyper sympa, il y a une grille de lecture qu'on peut se dire, c'est que à la fin, Trump, il veut être, on se souviendra de Trump comme celui qui a fait passer l'économie américaine d'un mode basé sur la consommation à une économie industrielle. Et donc à ce moment-là, il fait baisser la conso et il essaie de rapatrier les chaînes de production aux États-Unis. Mais je suis complètement d'accord, ça, c'est une façon de voir les choses très 19e siècle. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont telles. Encore une fois, vous voyez, je suis d'accord que les exportations et les importations, c'est en défaveur de l'Europe, mais typiquement, Boeing a plus de commandes avec les Européens que les Européens ont de commandes à l'Airbus avec les Américains.
Il va avoir des élections en mi-novembre 2026.
En êtes-vous sûr ?
Non, au moins les élections de mi-mandat. Bon,
Non, mais ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est qu'on voit bien qu'on a changé de régime. C'est-à-dire que c'est un régime aujourd'hui qui est devenu très présidentialiste, où on gouverne par décret. Ouais. Et donc aujourd'hui, l'idée que s'il perd les élections de mi-mandat, ça l'empêchera de continuer son agenda, je suis beaucoup moins sûr.
Donc c'est pas une échéance pour lui.
Bah, je pense pas. D'ailleurs, lui, encore une fois.
Et donc, est-ce qu'on est en train de se dire qu'il est capable de prendre le risque que décrit Sébastien, c'est-à-dire de ralentissement, de récession, de manque de confiance, Marisol?
Marisol. Moi, je pense qu'effectivement, il sacrifie un peu le court terme et en connaissance de cause, il sacrifie le court terme pour le moyen terme. Le moyen terme, c'est son objectif de réindustrialiser les États-Unis. D'après les simulations qui ont été faites par des économistes divers et variés, là, à la suite des annonces de mercredi sur la hausse des droits de douane, d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la hausse des droits de douane, elle a été beaucoup plus forte que ce qu'on pensait.
Hein. Ouais,
il y a eu une estimation de Goldman Sachs qui pensait que les droits de douane allaient se fixer à peu près à 13%. Là, on est à 20%, donc bien au-dessus.
Et on n'est nulle part, parce qu'on n'est pas au 9 avril et qu'il peut se passer des choses.
Voilà, c'est pas définitif, donc ça aussi, il faut le répéter. Il faut l'avoir en tête, et il y a sans doute... il indique qu'il y aura deux étapes. D'abord, les 10% tout de suite, donc à partir de demain, et puis ensuite, les surtaxes, qui globalement amènent à 20, et ça sera le 9 avril. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une petite marge de négociation, probablement, sinon il aurait tout mis au 5 avril, à demain. Donc, mais le problème, c'est qu'en fonction de la réaction des différents partenaires, ça peut aussi aller vers le moins bien, comme...
Et on l'a vu avec la Chine qui a déjà...
En termes d'impact, donc les chiffrages des économistes, si vous me permettez, ils sont assez sérieux, puisqu'on pense que le PIB des US, il va diminuer avec cette hausse du coût des produits importés de l'ordre de 1%, donc c'est quand même sérieux, on va passer de grosso modo, on s'attendait à 2,3 à 1,3, et chez nous en Europe, ça va être moins fort, puisque on a pour l'instant moins de droits de douane, et ça devrait être de 0,4.
Ouais, j'ai entendu tout ça, on va y revenir, hein, Sébastien, très rapidement.
Juste, est-ce qu'on n'essaye pas de rationaliser quelque chose qui est juste con, en fait ? Parce qu'entre Trump 2 et Trump 1, Trump 1, il ne s'attendait pas à être élu. Il avait une équipe relativement conventionnelle autour de lui. Cette fois-ci, regardez qui il a autour de lui. Son secrétaire de haut d'état au commerce, il faisait quoi avant ? En fait, il y a beaucoup de gens qui, en réalité, n'ont rien à faire là. Donc, c'est-à-dire, et en plus, c'est souvent des gens.
Donc, vous avez la vision extrême, c'est-à-dire, ils font n'importe quoi, ils sont.
Je pense que des fois, le risque, souvent, c'est qu'on essaie de rationaliser des choses qui, fondamentalement.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je continue à dire, he's a man with a plan. Il a un plan. La question, et là, je reviens à ce que.
Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir et il n'y a personne qui.
Ça, c'est certain.
Et regardez comment les chiffres ont été choisis aussi. Ouais. La façon dont.
Ouais, mais enfin, bon, et on s'en fout. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'argument que j'entends sur tous les plateau aux Français pour se foutre de sa gueule en disant il a fait une règle de trois, mais qu'est-ce que ça change? Si c'est une posture de négociation, vous en foutez de dire c'est 70%, 28%, ou si ça a été calculé par 25 économistes de la BCE qui font rien de mieux que l'équipe d'économistes qui sont autour de Trump. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le point, c'est de se dire, et là où je suis d'accord avec vous, c'est de se dire, ce gars-là, il aime le S&P, il aime la confiance des ménages, il doit bien savoir que ça aura un impact et que ça a déjà un impact parce que l'effet richesse inversé, il a lieu en ce moment.
C'était chiffré, je l'ai lu ce matin, 3 800 $ par consommateur cette année.
Voilà. Oui, mais ce type de chiffrage, la réalité, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas une vision globale sur comment les ménages vont réagir aux taxes douanières. Les entreprises, elles ont mis en place des stratégies de contournement. Donc, bien sûr, on a des prévisions, mais qui sont très, très larges avec une fiabilité qui est assez
faible. D'accord, mais qu'est-ce qu'il se dit, lui, quand il entend des Jean-François, il entend des Sébastien qui disent, bon, bah, globalement, la confiance des ménages va s'effondrer, la bourse s'effondre et votre cote de popularité va s'effondrer.
Mais comme tu l'as rappelé, je pense que c'est le point qui est important, c'est le timing, le court terme. Si vous lisez notamment ce qu'écrit le chef économiste de la Maison Blanche, il disait, en novembre, il a écrit un papier, il mettait très nettement en avant le fait que si on veut rechanger le système financier commercial international, on aura à court terme de la volatilité, ça va être compliqué sur les marchés, mais encore une fois, c'est à court terme. Et il a un plan, comme vous le dites, mais à très long terme. Et finalement, effectivement, c'est très la correction sur les marchés, elle est longue, elle est beaucoup plus longue que celle qu'on a connue en termes de durée qu'au mois d'août. Mois d'août 2024, on a une correction d'à peu près 16% du côté américain, ça a duré 19 jours. Là, on est un peu plus de 16%, 33 jours. Donc, c'est long, c'est douloureux, on sait que ça va continuer. Mais la réalité, c'est du très court terme pour eux. L'objectif.
Donc, vous dites, il a une vision, et à la limite, ce qui se passe à très court terme et la volatilité, il l'assume.
Tout à fait. Et il considère que ça fait partie de la marche forcée pour aboutir à son plan.
Alors, revenons aux chiffres, parce que Marisol en a parlé. Moi, je suis fasciné par les gens qui sortent des chiffres avec une certitude en disant... Parce que, comme disait Christopher, il y a tellement d'éléments. Par exemple, on prend un exemple très précis de ce qui s'est passé depuis deux jours. Oui, il y a un effet inflationniste sur la hausse des droits de douane, mais derrière, le cours du pétrole s'est effondré 12%. Donc, ça vient compenser, j'imagine. Enfin,
Oui, bien sûr. Il y a des effets. Et puis, encore une fois, comme il y a des stratégies de contournement, des effets de second tour. Moi, je me permets juste de faire un petit pari ici, devant tout le monde. Mais tout le monde dit, vous allez voir que le 9 avril, les droits de douane seront différents. Moi, je crois qu'ils seront différents, mais ils seront à la hausse. Ce qui va se passer, Trump, après l'annonce des Chinois des tarifs à 34%, il va remonter des tarifs sur les biens chinois qu'il importe. L'Europe va faire une série de... Premièrement, ils vont prendre les décisions qu'ils avaient juste prorogées pour l'instant. L'Europe va faire des mesures, des contre-mesures, et donc Trump va remonter encore plus ses droits de douane sur un certain nombre de biens européens. Donc on est dans une escalade qui baissera peut-être un petit peu, mais moi je tiens le pari que les droits de douane vont être supérieurs à ce qu'ils sont annoncés. On est qu'au début de la guerre commerciale.
Alors, on est dans la guerre commerciale.
Okay, donc,
dire qu'il y a globalement... Allez, on suit votre raisonnement, ce sera peut-être pas 50%, mais on va avoir une hausse des droits de douane de 20%. Allez, prenons ça. Qu'est-ce qui se passe? Marisol nous a donné des chiffres que je mets en cause. Pas ces chiffres
Ce sont des estimations.
Non, mais évidemment.
Quand on fait tourner nos modèles, alors il y a des modèles d'équilibre générale, justement, qui voient en fonction de vos partenaires comment ils risquent de réagir eux-mêmes. Mais encore une fois, ça change tous les jours. C'est hyper dur à faire.
Évidemment.
Mais l'ordre d'idée, pour l'instant, nous, on avait déjà réduit de 0,5 notre prévision de croissance sur les États-Unis à 1,7. Bah, là, on va sans doute réviser de nouveau à 0,5. Donc, on rajoute 0,5 de croissance de moins par 10% de droits de douane supplémentaires. C'est à peu près ça le gros calcul.
Confirmerait à peu près.
Non, je divise quand même la croissance par 2 par rapport à ce qui était prévu au début de l'année. Donc on n'est pas du tout dans la récession. Je vois qu'il y a un certain nombre de banques américaines qui disent qu'il y a maintenant 40-50% de probabilité de récession. Moi, j'y crois pas du tout à ce qu'il y ait une récession aux États-Unis aujourd'hui.
Vous dites pas de récession, vous dites ralentissement. Vous dites quoi sur l'inflation?
L'inflation, ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Des droits de douane, c'est inflationniste.
Pourquoi les taux à long terme baissent?
Mais parce qu'il y a des craintes de récession. Donc c'est pour des mauvaises raisons que les taux à long terme baissent.
D'accord, mais si on a une récession, ça va peser sur l'inflation. On le voit déjà avec la baisse du prix du pétrole.
Mais moi, je ne crois pas du tout à cette récession. En revanche, si vous me prenez une seconde, ce que j'explique à mes étudiants de la Sorbonne, c'est que soit vous mettez 25% sur les droits de douane sur des lave-linges. Si vous ne produisez pas de lave-linge aux États-Unis, comme vous avez mis 25% de droits de douane sur vos importateurs, votre prix du lave-linge, il monte de 25%. Vous produisez des lave-linges aux États-Unis. Tous vos compétiteurs du reste du monde, ils ont 25% de droits de douane. Bah, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous montez vos prix, vous montez vos marges. C'est précisément ce qui s'est passé sur les lave-linges. Avec juste 10% de droits de douane, ils ont monté de 12%. Donc, c'est clair.
Donc, inflationniste.
C'est inflationniste. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun modèle. On a fait tourner 60 chez Natixis.
Même si on a des contre-effets comme le pétrole. Je vous ai pris un exemple précis. Ça ne vient pas compenser.
Bah, ça vient évidemment compenser. Un dollar. Mais de l'autre côté,
un pétrole à $50, ce n'est pas un pétrole à $80.
Bien sûr. Mais dans le même temps, vous avez un dollar qui est en train de s'écrouler. Donc, vous avez un truc qui est. Il y a des choses qui se compensent. Il y a plein d'effets de second tour. Donc, c'est très, très dur de dire. Mais grosso modo, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit tout à l'heure Sébastien, c'est qu'on est, on est deux tiers du PIB américain, c'est de la conso. Donc si on veut regarder ce que va faire le PIB américain, c'est de la conso. Et je suis d'accord avec vous, si la conso s'écroule, les prix ne vont pas monter énormément, puisque si on consomme moins, on fera moins monter les prix.
Et c'est dans un contexte où Walmart, en début d'année, a commencé à expliquer qu'il y avait un problème.
On est en fin de cycle de croissance.
Non. Problème de consommation, parce que l'argent, l'effet d'aubaine lié au Covid avait disparu pour les classes les plus populaires, qui accessoirement est celle qui avait voté pour Trump, qui va se faire le plus attaquer au niveau de l'inflation. Donc il va avoir un vrai sujet avec son électorat. N'oubliez pas qu'une des raisons pour lesquelles il a été élu, c'est que les gens ont dit que Biden avait été nul en économie et n'avait pas su gérer l'inflation.
C'est l'inflation.
Absolument. Christopher Dembig. La croissance aux États-Unis, l'inflation aux États-Unis, la croissance en Europe, l'inflation en Europe. L'impact de tout ce qu'on est en train de dire.
Très clair, je pense qu'on est aligné. Il n'y a pas du tout de risque de récession. C'est bien que c'est ce qu'anticipe le marché, mais c'est aujourd'hui
aux États-Unis
ou même d'ailleurs donc en zone euro, ça paraît assez exclu. On est sur un ralentissement. Après, l'ampleur du ralentissement est vraiment extrêmement dure à voir. Nous, on était en tout début d'année à 2-3 chez Pictet en termes de prévision de croissance pour les États-Unis. On les a révisés avec la Fed à 1,7. Et là, on a une estimation entre 1-1,7 en fonction finalement. Vous voyez, la marge de manœuvre est extrêmement importante. Du côté de l'inflation, c'est sûr et certain que c'est inflationniste. Mais on rajoute à cela aussi ce qui n'est pas lié aux tarifs douaniers. Une grande partie de l'inflation mensuelle, c'est lié au coût du logement aux États-Unis. Ça, c'est pas Trump, c'est lié à la structure même du marché. On sait qu'il y aura peu de logements en plus qui vont arriver sur le marché, donc ça va continuer à être inflationniste. C'est pour ça que la vision de se dire c'est la fin du monde, parce que c'est un peu ça depuis quelques jours, c'est la fin du monde, la Fed va baisser drastiquement les taux. J'appartiens à des boucles avec des fonds d'investissement américains sur WhatsApp. Certains se disent on va avoir une baisse des taux d'urgence de la Fed dans quelques jours. C'est complètement hallucinant. Mon avis, c'est que l'inflation va rester dure. Durablement élevé aux États-Unis, proche de 3%. Donc une Fed qui ne fait rien pour l'instant, parce que notamment elle a besoin de hard data pour savoir combien l'inflation va augmenter et la croissance également de baisser. Du côté de zone euro, c'est un peu plus limpide, parce que finalement on a une Banque centrale européenne qui peut continuer de baisser les taux à court terme. Elle n'a pas de problème à cet égard. On a eu des chiffres d'inflation récemment qui nous montrent qu'elle a suffisamment de latitude, donc elle peut aider sur une croissance qui va certainement ralentir. Alors vous aviez il y a quelques semaines de cela une vague d'engouement à cause du réarmement européen, en se disant c'est formidable pour l'Europe, on commence à faire des simulations. Dans tous les cas, l'effet bénéfique, c'est plutôt 2026. Faut être très très limpide. Donc ça va être compliqué pour l'Europe avec une croissance molle dans tous les cas, probablement inférieure à 1% cette année, mais avec une BCE qui va pouvoir baisser les taux, donc tout de même faciliter l'argent. Sur l'inflation, comme c'est relativement contenu, et a priori, on ne va pas avoir un bond du jour au lendemain qui ferait que la BCE changerait de tournure. Donc, c'est très loin d'être la fin du monde. Et encore une fois, j'insiste, on peut, avec les tarifs donnés, je vais vous donner un exemple précis, aussi trouver des produits de substitution. Je vous donne un exemple rapide. Premier mandat de Trump, vous aviez la guerre commerciale avec l'Europe. L'Europe réagit en visant notamment le jus d'orange de Floride. C'était l'un des principaux fournisseurs. C'était dans le top 3. Finalement, il n'y a pas eu de bon inflationniste parce qu'on a remplacé du jus d'orange de Floride par de l'espagnol. Donc, c'est pas possible sur toutes les matières, sur tous les produits et les marchandises. Pardon ?
Sur les lave-linges, on peut rien faire.
C'est plus compliqué, mais force est de constater, il faut pas avoir ces scénarios catastrophistes.
Le dollar, l'euro, parce qu'il y a un effet aussi dont on doit tenir compte, c'est qu'on dit souvent, par exemple, prenons le Vietnam, prenons le Cambodge, j'imagine que compte tenu des droits de douane qu'ils ont, s'ils étaient maintenus, leur monnaie va s'écrouler. Donc du coup, en termes d'importation, ça va faire des importations moins chères aux États-Unis ou pas ?
Oui, mais enfin, pour que ça compense 97% de droits de douane sur le Cambodge, c'est compliqué quand même pour des pays comme ça, hein, quand vous avez 50%
de droits de douane. Quel impact sur les cours de change
Le cours de change, pour nous, il est assez simple, hein, et d'ailleurs, c'est en train de se dessiner sous nos yeux, hein, c'est plutôt baissier dollar, tout ça. Pourquoi c'est baissier dollar?
Pas contre toutes les monnaies.
Non, pas contre toutes les monnaies, mais quand même, hein, globalement, le DXY, donc le dollar contre toute monnaie, va quand même se déprécier. Pourquoi ça se déprécie? Il y a tous ceux qui pensent qu'il y a une récession. Nous, on croit pas à ça. En revanche, il y a quand même toute cette idée aux États-Unis, l'administration américaine, et c'est le projet de Minrad encore une fois, hein, c'est qu'on voit bien qu'il y avait tout ce débat-là entre est-ce qu'ils sont pour un dollar fort ou un dollar faible. Hein, Pete Hegseth avait dit, Bessent avait dit, un dollar fort, c'est le reflet de la force de l'Amérique, il faut que ce soit fort. Mais en fait, on voit bien là maintenant qu'ils cherchent à déprécier le dollar, puisque le but ultime et unique de toute cette politique, c'est d'essayer de rééquilibrer la balance commerciale. Évidemment, un dollar faible, c'est peut-être meilleur pour vous, c'est encore une fois pas bon pour la consommation américaine, mais bon pour les exportations américaines. Et donc, je crois qu'ils sont pour un dollar faible. Et tout ce qu'ils font et tout ce que...
Mais c'est inflationniste, un dollar faible.
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout ce que fait Trump, là, pour l'instant, c'est hyper inflationniste. C'est pour ça que nous, on n'est pas très, très à l'aise sur la conso, où il n'y a plus de taux d'épargne, etc. Mais songez quand même qu'il y a toute une discussion au sein de l'administration américaine. Tout l'accord de Marshall Lago, hein, c'est de déprécier le dollar, de faire une défaut sur la dette américaine. Donc évidemment, vous ne mettez pas le dollar comme une belle refuge en ce moment. Hein.
Sébastien?
C'est un peu des impacts géopolitiques aussi, hein, ouais. Parce que d'une certaine façon, la parole américaine est fortement dépréciée. On l'avait déjà vu au niveau de l'Ukraine, au niveau des partenaires divers et variés sur la défense. Là, au niveau économie, on a vu, miracle, que les Chinois, les Japonais, les Coréens commencent à discuter ensemble d'un potentiel accord, une zone d'échange. Ouais. Ils le feront pas, mais en tout cas, ils se détestent.
La Corée a été très
d'accord. Ça fait 100 ans.
Peut-être, mais en tout cas... Il fait bouger les lignes. Le truc que je trouve intéressant, c'est que les États-Unis étaient d'une certaine façon le maître du monde tel qu'il existait. Trump, en faisant tout péter, en crée un nouveau. Est-ce que la place des États-Unis sera aussi forte dans le nouveau que dans l'ancien qu'il a contribué à détruire? C'est pas évident. En rentabilité risque, ce qui fait, à mon avis, n'a pas de sens.
Donc peut-être une opportunité pour l'Europe?
Non.
Non?
Je suis un optimiste de nature. Malgré les Européens, évidemment.